Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Patrick Lemoine. Patrick Lemoine, vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, praticien. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres consacrés à la dépression, à Alzheimer, à l'ennui. On reviendra sur ces vertus de l'ennui, à l'histoire de la psychiatrie, mais aussi au sommeil. Donc, première question, à l'heure où nous parlons, 22h15, est-ce que c'est l'heure de se coucher ou est-ce que c'est l'heure de se réveiller, vous qui êtes un spécialiste des nuits blanches ?
Question de gêne, en réalité. Ça paraît terrible de dire ça, mais nous ne sommes pas tous bâtis pareil. Certains sujets, comme moi, sont plutôt des lève-tôt, des sujets qu'on appelle du matin, dont je souffre ce soir, parce que je suis presque au-delà de mes horaires. Et puis, il y a des sujets du soir, et ce ne sont pas les mêmes. Et par exemple, si on doit les décrire, je reconnais tout de suite si quelqu'un est du matin ou du soir. Par exemple, les sujets du matin sont pathologiquement ponctuels. Sont toujours à l'heure, quoi qu'il arrive, ils sont à l'heure. Les sujets du soir, il faut vraiment que ce soit important, ou comme diraient les psychanalystes, un surmoi tyrannique pour arriver à être à l'heure. En revanche, ça a des avantages, parce qu'ils peuvent faire les 3-8, faire la fête, avoir des décalages horaires sans aucun problème, contrairement aux sujets du matin comme moi qui sont chrono-rigides.
Donc on n'y peut rien, on est comme ça.
On n'y peut pas grand-chose, effectivement, et je dis toujours d'ailleurs au DRH, si vous avez à recruter un gardien de nuit, par exemple, ou une hôtesse de l'air, s'il arrive en retard au rendez-vous, prenez-le, ça marchera.
L'expression dit « on tombe de sommeil ».
Absolument, absolument. On tombe de sommeil et cette chute dans le sommeil correspond en fait à une chute de la température du corps. Parce qu'on a un thermostat dans la tête qui régit le sommeil et l'éveil. Si votre température monte le matin, vous avez la forme. Et si elle descend bien le soir, vous faites du sommeil profond, donc de l'hormone de croissance, et donc tout va bien.
On dit aussi que vous pratiquez des nuits blanches quand des patients arrivent chez vous, malades, de ne pouvoir dormir. Est-ce vrai ?
C'est tout à fait vrai, mais c'est une maladie très particulière que dans notre jargon on appelle le retard de phase, le syndrome de retard de phase. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on rencontre beaucoup d'ailleurs dans le showbiz, dans le théâtre, les machinistes, les acteurs. Ce sont des gens qui, pour probablement des raisons génétiques aussi, mais également culturelles, se couchent de plus en plus tard, ce qui fait que quand ils arrivent à ma consultation, ils se couchent à 6h du matin, ils se lèvent à 13h. Ça va très bien s'ils ont trouvé un métier adapté, mais si vous avez un boulot et que vous devez être opérationnel à 8h du matin, vous endormez à 6h, le réveil vous fait sauter au plafond à 6h30 et c'est très dur. Et la seule façon de les traiter, en fait, c'est une nuit blanche totale, voire deux. Et ensuite, on les recale, c'est-à-dire qu'on les couche vers 23h, on les lève vers 7h et on leur demande de faire ça toute leur vie. Ils ne nous écoutent jamais. En général, au bout de 6-8 mois, ils sont repartis vers cette chute, vers ce décalage vers le bas de leur rythme de sommeil.
Alors, on reviendra sur votre lutte contre les médicaments et notamment contre les somnifères et les antidépresseurs.
Oui, un des combats de ma vie, ça.
Un des combats de votre vie. Mais je voulais savoir d'abord comment et pourquoi vous étiez devenu psychiatre.
Eh bien, je suis devenu psychiatre parce que j'aime beaucoup les poissons rouges. Ça peut paraître bizarre, ceci dit, venant d'un psychiatre, rien n'est bizarre, mais lorsque j'étais petit, mes parents avaient pour meilleur ami un psychiatre qui avait une très belle maison. Et dans cette maison, moi je m'ennuyais un peu le dimanche, passer des journées pendant que les parents parlaient, je m'ennuyais un peu, et il y avait un aquarium extraordinaire. Pour moi, il devait faire 15 mètres de long, je pense que ramené à une taille d'adulte, il devait faire 2 mètres de long. Et donc, dans mon esprit, c'est que pour avoir un aussi bel aquarium, il fallait être psychiatre. Donc j'ai été psychiatre, mais j'ai toujours pas d'aquarium.
Vous avez vécu donc une période de l'apprentissage de votre propre métier, où il y avait l'enseignement de la psychothérapie, institutionnelle ou pas, l'enseignement de la psychanalyse. Or, à lire vos ouvrages, vous semblez très rétif à la psychanalyse. Pourquoi ?
Vous savez, j'ai été beaucoup formé, j'étais chercheur à l'université de Stanford en Californie. Et donc, je suis passé d'un univers totalement psychanalytique lyonnais à un univers totalement psychiatrie biologique, thérapie comportementale. Mais j'ai quand même fréquenté pendant un an Bruno Bettelheim.
Quelle chance vous avez eue
à Stanford.
Quelle expérience vous avez eue et qu'en avez-vous tiré de cet enseignement avec Bettelheim?
C'est un des plus grands communicateurs que je n'ai jamais vu, mais c'est triste à dire, mais c'était quand même un grand imposteur, puisqu'il n'avait jamais été ni psychiatre, ni psychanalyste, et qu'il avait falsifié ses papiers, et qu'en fait il était marchand de meubles à Vienne avant-guerre.
Mais il a écrit La forteresse invisible.
La forteresse vide, effectivement, est un chef-d'œuvre qui a bercé mon enfance de psychiatre, qui est très intéressante, mais en réalité... Pourtant, je l'ai beaucoup admiré, mais je pense qu'il a fait énormément de mal, malgré tout, puisque j'ai quand même suivi des familles dont la mère s'était suicidée parce que le plus grand psychanalyste du monde, Bruno Bettelheim, leur avait dit « Votre fils est autiste parce que, depuis le début, vous cherchez à le tuer inconsciemment. » Et ça s'est soldé par un suicide. Or, le problème, c'est que cette approche a énormément culpabilisé les parents. Et le problème aussi est que, soit il avait raison, ou quelqu'un, il aggravait le problème, en les culpabilisant encore plus, et donc en renforçant leur agressivité.
Mais culpabiliser, mais pas seulement. Il leur donnait des clés d'interprétation
pour
pouvoir accompagner la maladie.
Pas vraiment. Dans l'institut orthogénique qu'il dirigeait à Chicago, les parents étaient interdits de séjour et les enfants étaient interdits de sortie. Dans son esprit, et j'en ai beaucoup parlé avec lui, il fallait totalement supprimer tout contact familial pour les enfants autistes. C'était, d'après lui, le seul moyen de les sortir de l'autisme. Et puis, maintenant, on sait que c'est faux. Et on sait que la seule manière, en réalité, de traiter les autistes, c'est une manière pédagogique, didactique, de les obliger à parler, à faire. Et on voit maintenant, j'en ai beaucoup parlé avec mon ami Boris Cyrulnik, par exemple, on arrive maintenant à les faire sortir de leur mutisme. Et beaucoup d'autistes arrivent maintenant à vivre chez eux. Rarement, ils se marient, mais ils ont un boulot. C'est souvent des très bons informaticiens. Et surtout, ils ne croupissent plus dans des asiles comme je l'ai vu pendant toute ma formation et le début de mes études.
Sur cette histoire donc d'expérience Bettelheim, pourquoi ne sait-on pas, nous, public français, ce qu'il en est ? On est très peu informés, vous me l'apprenez, cette histoire de...
Cette imposture, oui.
Cette imposture.
Oui, même la psychanalyse des contes de fées est un plagiat d'un de ses élèves qu'il a copié sans vergogne. Donc c'est vraiment un personnage fascinant.
Donc ça vous a marqué?
Ça m'a marqué beaucoup.
À la fois d'être fasciné, d'être sous influence
et
de vous apercevoir.
J'ai jamais vu mieux. C'était le Sherlock Holmes de la psychanalyse. Il était capable de démonter une histoire de manière incroyable. Mais il y avait deux dogmes quand on était à son séminaire. C'est un, il était le plus grand psychanalyste du monde. Ça, on pouvait adhérer. Deux, les parents, comme les autres psychanalystes, n'avaient qu'une idée, c'était de tuer les enfants. Donc c'était, et chaque fois que les gens apportaient des histoires, je parle des psychanalystes, ils sortaient en larmes, tellement il était dur avec eux. Mais il était d'une intelligence absolument extraordinaire. Mais comme je suis un pragmatique et que parallèlement j'étais dans un service de formation pour la recherche sur les troubles du sommeil et sur ce qu'on appelait à l'époque la psychiatrie biologique, qui est devenue les neurosciences, j'ai été formé au pragmatisme. Et c'est vrai que la psychanalyse, c'est une magnifique méthode de développement personnel. Mais on doit rester sur le paradigme qu'un psychanalyste m'a appris. La psychanalyse fait d'autant plus de bien qu'on va bien et d'autant plus de mal qu'on va mal. C'est-à-dire, c'est pas un soin, mais c'est une façon de se connaître, de se développer. Ça n'est jamais qu'un avatar du fameux Gnotis et Auton de Socrate. C'est de la maïotique, sauf que c'est pas là le psy qui parle, mais c'est l'analysant.
Alors, dans plusieurs de vos ouvrages, vous analysez effectivement l'avancée des neurosciences à l'intérieur du domaine de la psychiatrie. Vous expliquez que vous n'êtes pas contre la psychanalyse, même si vous ne croyez pas à la seule psychanalyse comme possibilité thérapeutique. Est-ce que vous faites partie de ceux qui tiennent cette psychiatrie chimique comme seule alternative, ou est-ce que vous faites partie de ce courant qui se développe de plus en plus à l'intérieur des hôpitaux aujourd'hui, qui mêlerait les deux approches, qui les trouverait complémentaires?
En réalité, pour moi, la psychanalyse, c'est un outil irremplaçable de formation des psys. Parce qu'ils apprennent à maîtriser.
Et seulement ça.
Déjà, puis deuxièmement, comme je vous le disais, c'est une méthode de développement personnel. C'est-à-dire qu'on s'épanouit si on se connaît mieux. Et ça, j'en suis intimement persuadé. En revanche, Il y a beaucoup d'aggravations lorsque les gens vont pas bien au départ. C'est pour ça que je refuse d'en faire un outil de soin. C'est un outil de développement et de formation. À partir de là, il faut savoir quand même, il y avait même une thèse qui avait été faite qui montrait que dans les services d'idéologie psychanalytique, on prescrit beaucoup plus que dans les services d'idéologie neurosciences. Pourquoi ? Parce que les neuroscientifiques, psychopharmacologues comme moi, savent ce que ça fait les médicaments. Du coup, on en a très peur. J'ai une peur panique des médicaments et je n'arrête pas de dire, c'est très grave de prescrire un médicament, ça engage la vie et peut-être, avec ce qu'on appelle l'épigénèse, ça peut engager la vie sur 3 générations. Et donc, ne prescrivez pas, prescrivez le moins possible, le moins longtemps possible. Je ne parle pas des maladies essentiellement génétiques, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, où là, c'est comme le diabète, il faut des traitements à vie. Mais dans toutes les autres maladies, on doit prescrire le moins possible, le plus faiblement possible, le moins longtemps possible, parce que c'est trop grave de prescrire. Et on doit prescrire uniquement en cas d'échec de tout le reste. Et tout le reste, ben c'est quoi ? C'est l'hypnose, c'est les thérapies cognitives et comportementales, c'est le MDR, c'est la mindfulness, c'est l'EFT, enfin, il y a...
La luminothérapie.
Oui, que j'ai introduite en France, d'ailleurs, en 82, par chance, hein, puisque j'étais aux États-Unis quand c'est sorti, qui est une méthode merveilleuse et totalement sous-utilisée en France. Partout ailleurs, on l'utilise.
Donc, c'est l'introduction de lumière artificielle à l'intérieur de...
Oui, dans des indications précises. Hein. C'est ce qu'on appelle la dépression d'automne-hiver et puis le décalage horaire et certaines formes d'insomnie, surtout l'insomnie d'endormissement. Mais les chiffres sont simples. Si vous avez une dépression, que vous prenez un antidépresseur, vous avez 60% de chances que ça marche dans les 2 à 6 semaines. Si vous avez une dépression saisonnière, que vous acceptez d'être traité par la lumière, vous avez 85% de chances que ça marche dans les 4 à 14 jours. Il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus efficace que les médicaments et ça n'est guère utilisé en France.
Alors on reviendra sur les différents segments de la médecine dans lesquels vous vous battez contre ces médicaments qui nous abrutissent et qui ont des conséquences négatives sur notre comportement, mais aussi sur ceux, si j'ai bien compris, de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais je voudrais qu'on revienne sur votre formation. Vous disiez que vous étiez allé à Stanford, que vous aviez eu une formation à Lyon, mais vous êtes beaucoup battu aussi pour l'existence d'un hôpital psychiatrique qui puisse être un lieu d'accueil, oui, un lieu de vie, un lieu de considération des patients. Et je crois que pour ce faire, vous êtes passé aussi par l'histoire, car dans votre itinéraire, vous avez écrit un roman qui est plutôt un récit qui s'intitule « Droit d'asile »,« Asile au pluriel », qui a été publié il y a quelques années aux éditions Odile Jacob. Et c'est un texte absolument remarquable qui, par le menu, nous raconte ce qui s'est passé dans un hôpital pendant la guerre. Pourquoi et comment en êtes-vous venu à exhumer des archives contre tout votre corps d'origine ?
Oui, oui, oui. C'est une période difficile de ma vie parce que ce livre m'a valu énormément d'ennuis, plus que des critiques, mais des ennuis avec mes confrères et certaines administrations des hôpitaux psychiatriques. Alors l'histoire est très simple, je suis passionné de peinture. Et il se trouvait qu'un de nos anciens maîtres de Lyon, qui était docteur André Roquet, avait soigné un malade, un fou, qui s'appelait Sylvain Fusco. Et ce garçon qui est mort de faim, mais là c'est pas la faute de Vichy, hein, il est mort de faim, pas de désespoir, parce que son psychiatre, son aliéniste était parti au front. Bref, ce Sylvain Fusco avait fait une œuvre absolument remarquable, fascinante, que j'avais découvert chez ce psychiatre. Et ce psychiatre m'avait dit, c'est terrible, cette œuvre est inconnue, et puis surtout la tragédie de ces 48 588 patients morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres sont de l'INSEE, hein, c'est assez indiscutable, et tout le monde les reconnaît, ces chiffres. 250 000 en Allemagne aussi, dans une indifférence générale. Et donc, André Roquet m'avait dit, promettez-moi de faire connaître cette histoire, j'ai échoué, il y a eu une thèse qui n'a pas eu beaucoup de retentissement, faites un roman pour que ça se sache. Je crois que j'ai un peu échoué aussi, parce que finalement, je m'aperçois que peu de personnes savent vraiment ce qui s'est passé. Pour reprendre l'histoire, il faut savoir que dès son élection, Hitler avait réuni l'ensemble des acteurs de santé pour éliminer je ne peux pas vous le dire en allemand, mais c'est les vies sans valeur de vie. C'est-à-dire tous les handicapés physiques et mentaux. Et ils ont commencé à exécuter les gens, même les malades physiques. Il y a même eu des héros de la guerre de 14-18 qui ont été gazés. On oublie souvent que les chambres à gaz ont été testées dans les asiles psychiatriques, avant tout. Et puis, l'histoire avançant, il y a eu une révolte des Allemands, des citoyens allemands, même les nazis, qui s'étonnaient de recevoir une urne funéraire en disant « Votre cousine, votre oncle est mort d'une maladie infectieuse pour des raisons d'hygiène, on l'a incinéré, voilà son urne. » Parce que ça faisait beaucoup trop, hein, 250 000 en tout. Et donc Hitler a réuni, on a retrouvé les traces de cette réunion, les directeurs des asiles, qui étaient souvent des psychiatres d'ailleurs, des universitaires pour la plupart, je crois que c'était les deux tiers des universitaires, en leur disant, ouvrez les guillemets, pour éviter les critiques haineuses de la presse ennemie, nous n'éliminerons plus radicalement les aliénés, mais nous les ferons mourir de façon plus naturelle, l'écologie avant la lettre, de faim et de froid. Interdiction à quiconque à l'avenir d'avoir une trace écrite. Donc les choses ont été appliquées de cette manière en Allemagne. Et puis ensuite, il y a eu la guerre, 40, les lois raciales et les restrictions, puisque la plupart du ravitaillement français partait en Allemagne. La France a eu faim, puisqu'en moyenne, les Français ont perdu pas loin de 10 kilos pendant le temps de la guerre, mais la France ne mourait pas de faim. Et parce qu'il y avait le marché noir, les jardins ouvriers, le troc, le système D à la française. Et donc les gens arrivaient...
L'étiquette d'alimentation.
L'étiquette d'alimentation, bien sûr. Mais quand on faisait un calcul, on voyait que l'étiquette d'alimentation ne suffisait pas à la survie. Du coup, il y avait des tickets de suralimentation pour tous les gens qui étaient dans d'autres établissements sanitaires, les sanas, les hôpitaux généraux, les maisons de retraite, les maisons de repos, etc. Sauf... les asiles psychiatriques, c'était mis dans la loi, et également les prisons. Mais les prisonniers ont toujours su cantiner et ils se sont débrouillés. Mais les malades mentaux étaient incapables de cantiner. Les familles qui étaient clairvoyantes les ont retirés ce qu'ils pouvaient en début de conflit, voyant les gens qui mouraient comme des mouches. Mais par exemple, pour le Vinatier à Lyon, où j'ai travaillé quand même pendant plus de 30 ans, il y a eu 2000 morts supplémentaires à un hôpital qui avait une contenance de 3000 malades. Donc on est vraiment dans des chiffres extraordinaires, avec des scènes d'horreur. Donc j'ai commencé à fouiller les archives, retrouver les mêmes chiffres que les historiens, avec une différence, c'est que les historiens, même officiels, disent « ben non, il n'y avait pas à manger, c'est la faute à pas de chance ». Alors que si on regarde les choses en détail, on voit que ce n'est que dans les hôpitaux...
Et vous avez eu accès à toutes les archives, manifestement.
Oui, ils ne se sont pas méfiés au début. Ils m'ont laissé accès à toutes les archives. J'ai compté les morts un par un, pendant un an, dans les archives poussiéreuses. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans les hôpitaux ruraux, et surtout les hôpitaux privés, notamment les congrégations, où on punissait le personnel quand ils faisaient du coulage, qui piquaient la nourriture... Je ne leur jette pas la pierre, hein, si vous êtes une infirmière... qu'on vous explique qu'ils ne servent à rien, parce qu'il y avait un hygiénisme en France où on expliquait qu'il fallait quand même les supprimer, ces gens-là, qui étaient inutiles, fardeaux pour la société, et que vous aviez des enfants à nourrir, vous preniez des beefsteaks pour vos enfants. Mais dans ces hôpitaux privés, les gens étaient virés, alors que dans le public, ils étaient plutôt encouragés. Donc tout ça a été effroyable. Et en 1943, il y a eu un changement de politique. Il y a eu une grosse pression des aliénistes parisiens qui connaissaient la femme d'un ministre. Enfin, je vous passe les détails. Et la politique a changé et les gens ont arrêté de mourir en surnombre. Donc ça a été une histoire... Mais vous voyez, ce qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est les conditions de vie de 1900... J'ai commencé mon roman en 1930. De 30 en 39, en période d'abondance, les conditions de vie étaient effroyable. Un tiers de mortalité dans les 5 premières années. Et ce qui a motivé d'ailleurs l'organisation des secteurs, ça a été le fait qu'il y a eu des psychiatres, il y a eu des gardiens de fous qui ont été déportés eux-mêmes, qui se sont retrouvés à Buchenwald, et qui ont été soumis exactement au protocole, point par point, de ce qu'eux-mêmes pratiquaient dans leurs asiles. Et ils se sont dit, mais c'est terrible, j'étais donc le directeur, j'étais donc le patron d'un camp de concentration. Et ils ont dit, plus jamais ça. Et le plus jamais ça est devenu le secteur, est devenu ce qui a fait quand même...
À ce une qu'on époque, a appelé la psychiatrie de secteur.
Exactement.
Sur laquelle nous vivons encore.
Absolument.
Mais alors justement, dans l'histoire de la psychiatrie, Patrick Lemoine, est-ce que vous pensez que après cet épisode tragique de la guerre, est-ce que vous pensez que tous les inventeurs d'une pensée sur ceux qu'on appelle les fous, ceux qui sont différents, les grands inventeurs, ont réussi à modifier la pratique de l'hôpital psychiatrique et la réalité pour ceux qui y vivent ?
C'est une question complexe, il y a beaucoup d'éléments. Il y a eu d'abord ce plus jamais ça, et donc l'organisation du fait qu'il fallait essayer de remettre le psychotique dans la cité. C'était les textes fondateurs. Ensuite, il y a eu l'invention des premiers neuroleptiques, qui ont guéri les psychiatres et les infirmiers de leur peur. Parce qu'on n'a jamais vu un neuroleptique guérir un psychotique, ça les contient. En revanche, à partir du moment où vous êtes soignant et vous n'avez pas peur en permanence de prendre un mauvais coup, parce que c'était très physique, un infirmier qui était un de mes héros m'a dit « Il n'y a pas un jour dans ma carrière où je ne me sois pas battu. Pas un jour. » Donc le jour où les patients sont calmés et où les soignants n'ont plus peur, ils peuvent commencer à penser. Et lorsque vous pensez, vous introduisez la psychanalyse, les formes de psychothérapie, l'organisation de ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle. Et ça, ça a tout changé. Mais il y a eu malheureusement des dévoiements. Et je repense beaucoup à une patiente qui a failli faire que je change de métier, tellement j'ai eu honte. C'était une patiente qui a succédé à Jeanne Calment comme la doyenne des Français. Et cette dame, quand je l'ai connue, c'était à la fin des années 80, donc elle était déjà très âgée, elle était internée d'office depuis avant la guerre de 14. Internée d'office, avec les chiffres que ça représente pour la sécurité sociale d'ailleurs. Et donc je lui ai dit un jour, Henriette, écoutez, vous êtes guérie depuis 30 ans, on dit 50 ans, docteur. Pensez pas qu'on pourrait lever cet internement et puis que je vous trouve un lieu de vie un peu plus digne de vous, une maison de retraite confortable, vous êtes toujours dans un affreux dortoir empilé les unes sur les autres. Qu'est-ce que vous en diriez ? Bien, je dirais, docteur, que vous êtes un salaud. Ah bon, Henriette, mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement que pendant 40 ans, j'ai demandé ma sortie, mais je faisais très bien le ménage. On ne m'a pas laissé sortir. Et maintenant, je suis vieille, vous voulez me virer. Et là, j'ai eu vraiment très, très honte.
Il y a eu les expériences, notamment en Grande-Bretagne, avec tout ce mouvement de sortie des hôpitaux psychiatriques. Il y a eu le même mouvement, un peu concomitant, en Italie, avec Franco Basaglia à Trieste et toutes ses équipes. Qu'est-ce que vous pensez de ces expériences qui, aujourd'hui, sont lettres mortes ?
Pas tout à fait en Italie.
Fous dans la ville, entre guillemets, les fous, ils font toujours peur, quoi.
Certes. Alors, il se trouve que j'appartiens à un groupe qui m'a donné une mission internationale. Et donc, je travaille en Suisse, en Italie, en France, bientôt en Allemagne et un peu en Chine aussi. Et puis, comme j'ai travaillé...
En Chine ?
Oui, on s'implante aussi en Chine. Le groupe est en plein
développement. Ça va être compliqué.
Et marche très bien. Oui, mais c'est passionnant. Mon rêve, c'est de mettre ensemble deux équipes. Une équipe de médecine chinoise, une équipe de médecine occidentale. Et je pense qu'on va faire des belles choses.
Et vous pourrez travailler en toute liberté, étant donné la manière dont ils traitent les droits de l'homme en ce moment.
Ils ont pris conscience de la honte de la Chine sur les organisations psychiatriques qui sont presque inconnues là-bas. J'ai visité des choses effroyables. Et donc, on est vraiment les bienvenus. Je pense qu'on va pouvoir monter des établissements dont j'espère que nous serons fiers. Puis comme j'ai travaillé aux États-Unis et que j'ai été également chercheur associé et prof à Montréal pendant 3 ans, j'ai une vision finalement de pas mal de pays. J'ai aussi un peu travaillé en Russie. Et j'ai vu quand même pas mal d'organisations. Et je pense que on peut arriver en France à faire mieux. Si on prend par exemple le modèle suisse, que je trouve remarquable, où les psychiatres sont étonnamment bien formés, avec cette double formation de psychiatrie, on va dire neurosciences, pharmacologie, mais également ils sont obligés d'être psychothérapeutes. Et cette double formation leur donne, à mon avis, une qualité, une distance qui est tout à fait remarquable. En Italie, il reste quand même des séquelles de l'antipsychiatrie dont vous parliez à l'instant. Alors l'antipsychiatrie, c'était très généreux, c'était très beau, mais malheureusement, oublié complètement la souffrance. Parce que l'idée de départ était le malade mental n'existe pas, ou plutôt il n'est que le symptôme d'une société capitaliste malade. Installons le communisme universel et les malades mentaux disparaîtront. Et c'est ainsi que, après le 10 mai 81, On a vu arriver à l'hôpital une délégation d'élus fraîchement nommés. Il y avait des députés, des sénateurs qui disaient, je travaillais en suicidologie à l'époque, on vient vous voir parce que votre service va disparaître. Ah bon, on va disparaître, mais pourquoi? Parce que nous allons changer la société, il n'y aura plus de suicide. Bon, ils en sont rapidement... Ils étaient sincères et de très bonne foi. Et je les blâme pas, je pense que c'était généreux de leur part. Mais ils oublient complètement que la maladie mentale n'est pas que la sécrétion. Il y a des maladies culturelles. L'anorexie mentale, c'est culturel. Mais le trouble bipolaire, la schizophrénie, il y avait les mêmes chiffres, quelles que soient les cultures, quelles que soient les périodes et quel que soit le niveau sociologique des gens. Il y a autant de schizophrènes chez les riches que chez les pauvres, en Afrique qu'en Occident. C'est une maladie très démocratique en réalité. Et ça, les antipsychiatres l'ont oublié. Et en fermant du jour au lendemain tous les manicolos, les asiles italiens, eh bien, ils ont mis sous le pavé des milliers de schizophrènes. Et ça a été quand même assez dramatique. Mais parmi les séquelles positives, il y a ce qu'ils appellent les communautés, que je trouve remarquable. J'en ai visité avant-hier en Lombardie. Ils font un travail fabuleux. Et puis, pour rentrer dans des détails techniques, ils soignent très bien des gens à 150 euros par jour, alors que chez nous, on les soigne très mal, à plus de 1000 euros par jour. Donc, c'est quand même assez tragique, la situation française.
Nous allons écouter Annie Ernaux au micro de Olivier Germain-Thomas à propos de son livre « Je ne suis pas sortie de ma nuit » et de la maladie de sa mère. C'est une archive du 8 juillet 2001.
Le journal est écrit avant sa mort.
Même effet de condensation.
Oui. Oui, avec en plus un effet différent parce que je parle de sa vie avant la, je parle de la vie de ma mère. Et puis je rejoins un moment effectivement la période du journal avec sa maladie et l'Alzheimer. Donc un effet très fort de condensation dans cette partie d'une femme par rapport au journal, bien sûr. Le journal fait une grande part aussi à tous ces signes les uns après les autres, tous les signes de sa dégradation qui peuvent apparaître effectivement un peu insoutenable à un lecteur et qui à moi me sont apparus comme insoutenables. Et j'avais rangé ce journal en disant que je ne publierai jamais.
Mais alors, pourquoi l'avoir sorti?
Bien, c'est comme pour se perdre, c'est le temps fait voir autrement. Le temps fait voir autrement les choses, c'est-à-dire que ce journal n'est plus brûlant, ce n'était plus brûlant dans ma vie, et à ce moment-là, il m'apparaît comme un texte, je n'ose pas dire comme un autre, mais presque, c'est-à-dire alors sous un autre angle, et sous l'angle peut-être d'un lecteur qui ne serait pas moi.
Nous venons d'entendre Annie Ernaux à propos de ce livre bouleversant. Vous, Patrick Lemoine, vous travaillez sur Alzheimer depuis très très longtemps. Vous avez publié un livre qui s'intitule « La vie Alzheimer ». Est-ce que c'est une atteinte de notre intégrité? Est-ce que c'est une maladie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je reprends vos propres termes, une maladie démocratique? Est-ce que c'est une maladie endémique? Est-ce que c'est une maladie qui va progresser plus l'espérance de vie va augmenter?
Et, oui.
Et on ne sait rien, et on ne sait pas la soigner, là, pour le coup. Donc, on ne donne pas de médicaments, parce qu'au moins, là, on sait qu'on ne peut pas la soigner.
Si seulement, vous aviez raison, et si seulement on ne donnait pas de médicaments. Parce que malheureusement, malgré les alertes répétées du ministère, on voit énormément de patients Alzheimer qui sont un peu agités, qui sont un peu agressifs, qui sont assommés par des médicaments qui leur font beaucoup plus de mal que de bien. C'est là mon problème, c'est que la France est un pays chimiothérapique, essentiellement... et non pas psychothérapique. Et pourtant, c'est tellement, non seulement c'est moins cher, mais surtout c'est beaucoup plus efficace. Dans mon domaine propre qui est l'insomnie, on sait que les thérapies psychothérapiques sont, un, plus efficaces, deux, plus rapides, et trois, plus durables. Et pourtant...
Mais ils demandent un effort.
Ils demandent un effort, mais pas tant que ça, en fait. Mais malheureusement, docteur, je dors mal, je vais vous prescrire telle pilule... presse-sommeil. Puis le lendemain matin, comme j'ai la gueule de bois, je vais avoir un comprimé presse-éveil. Donc c'est vraiment...
Mais pourquoi, à votre avis, vous qui avez une expérience de terrain depuis des décennies, pourquoi nous, Français, nous sommes plus consommateurs de médicaments qui nous assomment?
Alors ça, c'est,
il faut se poser des questions.
C'est drôlement
quand même
vrai ce que vous dites. À une époque, j'appartenais à l'Agence du médicament, commission de transparence. Donc c'est ce qui permet de dire l'utilité des médicaments. Et j'étais très frappé de voir que tout ce qui était tranquillisant, somnifère, neuroleptique, sédatif, ça passait comme une lettre à la poste, sans restriction, alors qu'il y a des toxicomanies à ces médicaments, notamment aux benzodiazépines, alors que des médicaments éveillants, Hein, il y en a pas mal. Modiodal, pour pas le citer, est un médicament éveillant. Il n'y a pas de toxicomanie, il n'y a pas de dépendance. Et il y a des complications pour le prescrire avec des ordonnances quadripliquées uniquement par des praticiens dans des unités de sommeil. Et donc, un jour, à bout d'arguments et furieux, j'ai sorti de la commission, mais finalement, dans ce pays, on est prêt à endormir le citoyen, mais jamais à le réveiller. Donc, je crois vraiment que la France est un pays révolutionnaire, extrêmement conservateur. Mais on calme beaucoup les gens. Hein. Dans les prisons, par exemple, les gens sont bourrés avec la fameuse fiole de médicaments calmants. Donc c'est vraiment un gros problème. Et on pourrait se demander pourquoi la France, qui n'est pas plus anxieuse, qui n'est pas plus insomniaque, qui n'est pas plus folle, enfin tous les chiffres sont absolument comparables en France avec tous les pays développés du monde, pourquoi on prescrit tant de médicaments? Et moi je pense...
Est-ce qu'il y a une maladie de civilisation, pour paraphraser Sigmund Freud?
Je crois que c'est une maladie des médecins. Je pense que c'est la formation médicale qui est à remettre en cause de fond en comble. Je vais avoir encore plein d'ennuis avec votre émission, mais tant pis. Je suis à un niveau de carrière où je ne crains plus ce genre d'ennuis. En France, nous avons des maîtres, des professeurs, des universités qui nous forment à la clinique. Et ils le font très bien. Je pense qu'on est probablement les meilleurs cliniciens du monde. Parce que ces profs, ils ont fait de la clinique, et puis que la clinique, ça change pas. Hein. Je pense que la grippe sous Hippocrate était à peu près comparable à la nôtre. En revanche, les médicaments et la thérapeutique, psychothérapeutique, eh bien, il faut voir des patients, il faut les suivre longtemps. Or, ces professeurs, ils ont 1000 responsabilités. Ils sont dans des jurys, ils vont au ministère, ils font des cours. Et donc, ils n'ont plus le temps de voir des patients, ou presque. En tout cas, pour ceux que je connais, c'est très rare qu'ils puissent voir des patients. Et du coup, ils n'ont pas d'idée de ce que font les médicaments. Et également, leur formation est assurée par les visiteuses médicales, dont l'intérêt n'est
vous
pas forcément de
réduire.
Vous voulez
dire qu'il y a des affinités électives et un peu trop consanguines entre le monde du lobby du médicament, que vous dénoncez d'ailleurs dans vos bouquins, et la pratique médicale aujourd'hui.
On sait très bien que les experts en France sont dans des conflits d'intérêts permanents. Le regretté Édouard Zarifian, d'ailleurs, qui l'avait dénoncé dans son rapport chez Odile Jacob, a également été frappé d'ostracisme du fait de cette dénonciation réelle. Mais le fait que... Il faut quand même faire des études pour être expert et pour s'y connaître. Mais il ne faut pas avoir trop de conflits d'intérêts malgré tout. Or, le fait que ceux qui enseignent la thérapeutique sont formés par les laboratoires entraîne un cercle vicieux. Et je pense qu'il faudrait arriver à un système radicalement différent qui serait que les cours soient faits à deux voies. Une voix scientifique, celle du professeur, et une voix d'un praticien, un généraliste en ville, un psychiatre en ville, qui aura à cœur de bien enseigner sa spécialité. Et je crois que tant qu'on ne fera pas ça, ça ne se fera pas. Mais vous voyez, j'ai une petite notoriété. J'ai travaillé pendant 25 ans dans les hôpitaux psychiatriques et maintenant je travaille dans un grand groupe. Jamais un politique, jamais quelqu'un du ministère m'a demandé mon avis. Parce que lorsqu'on dénonce ces choses-là, on fait une commission faite d'universitaires qui vont forcément redupliquer le modèle. Et on ne s'en sort jamais. Et je pense que la France a énormément d'ennuis et que ça coûte une fortune, parce que les médicaments ont énormément d'effets secondaires. On sait qu'il y a plusieurs milliers de morts par an du fait de ce qu'on appelle d'un affreux nom, qui est la iatrogénie, c'est-à-dire les morts du fait de la médecine. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie commission faite avec... Autre chose que... On demande aux gens en charge de l'enseignement de réfléchir sur leurs erreurs. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Et je dis, je n'ai jamais été consulté, ni aucun de mes confrères non-universitaires. Et ça n'est pas une amertume de non-universitaires. Je n'ai jamais cherché à l'être. Mais c'est quand même une critique pour mes patients.
Alors, vous êtes un homme en colère. Vous êtes un homme non-consensuel. Il y a régulièrement... des commissions, justement, que vous dénoncez, qui se penchent sur le problème de le libre accès du cannabis. Et vous avez publié dans Le Monde, il y a maintenant 2 ans, un article fracassant qui s'intitule « Shit, le bien-nommé cannabis », où vous dénoncez la nocivité extrême de ce cannabis.
Oui, absolument. En fait, tout le monde est de bonne foi dans cette histoire-là. Les politiques, je me rappelle Bernard Kouchner en avait parlé, beaucoup de politiques disent « mais au fond, c'est quand même pas bien méchant, on en a tous fumé étant ado, mais 68 a beaucoup fonctionné au cannabis, pourquoi pas le libéraliser, ça évitera les dealers. »
Comme dans certains pays.
Oui, comme dans certains pays. Mais ce qu'ils oublient, en fait, c'est que du fait de la sélection des plantes et donc de ces mutations, c'est des OGM en réalité, les plantes cannabis, le cannabis d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de 68. Et les concentrations en cannabinoïdes sont considérable, l'anandamide est considérablement. Et maintenant, donc, les dépendances sont beaucoup plus fortes. Puis deuxièmement, on sait maintenant que c'est un produit qui est quand même très cancérigène, et on sait aussi que c'est un produit qui, au niveau des performances intellectuelles des jeunes, est tout à fait catastrophique. Donc je pense pas que ce soit une drogue, c'est beaucoup moins addictif, par exemple, que le tabac. On sait que la nicotine, c'est le produit le plus addictif au monde, plus que la cocaïne, plus que l'héroïne. Certaines personnes, une cigarette, sont piégées pour la vie. Le cannabis, c'est quand même plus soft, mais en réalité, mais les conséquences sur la santé physique et mentale sont absolument tragiques.
Alors, pour s'ennuyer, mieux vaut ne pas prendre de cannabis. Pour s'ennuyer, mieux vaut rester seul. Pour s'ennuyer, mieux vaut pratiquer des cures d'ennui pour aller mieux, car vous êtes un adepte de cette méthode intérieure qui est de tout lâcher, de tout abandonner et de lâcher prise et de ne pas avoir ni d'horizon, ni de taquet comme ça dans la temporalité.
C'est vrai. Bah, quand j'étais petit et que mes parents me mettaient chez mes grands-parents à la campagne, il se trouvait que mes parents étaient un peu dans les bourgeois du village et que j'avais pas trop le droit d'aller jouer avec les petits paysans ou les enfants d'ouvriers. Et donc, je me retrouvais tout seul. Puis, je suis pas sûr que j'aurais été accepté, en plus, puisque j'étais, bien que je vinsse de Haute-Savoie, j'étais catalogué parisien, comme tous ceux qui étaient pas du village. Et du coup, j'étais très seul, et je me suis fermement ennuyé pendant mon enfance, d'où mon goût pour les poissons rouges, pour les oiseaux, pour l'éthologie en général. Et pourtant, il y a une chose qui est étonnante, c'est lorsque je repense à ces heures d'ennui de mon enfance, j'ai une nostalgie absolument immense. Et c'est ce qui m'a fait réfléchir aux vertus de l'ennui, d'où ce livre « S'ennuyer, quel bonheur », parce que je pense que pour grandir, il faut qu'on s'ennuie un peu, il faut que les parents arrête d'être activiste. Quand je vois le mercredi après-midi et samedi après-midi les parents qui courent d'un cours de danse à un match de foot et à un entraînement d'escrime ou de judo, je pense que c'est dommage. Il faut ménager, pas trop longtemps bien sûr, mais ménager quelques petites plages d'ennui où les gamins font rien. Et le « je m'ennuie papa, je m'ennuie maman », c'est pas dramatique. Ennuie-toi un petit peu, pas trop longtemps, mais c'est bien quand même de grandir dans ta tête.
Nous allons écouter le témoignage d'Annie Girardot à propos de sa maladie d'Alzheimer. C'était dans ce film « Ainsi va la vie » de Léo Bardon en 2008.
Au début, c'est un titre de film, par exemple. Qu'est-ce qu'il fasse ? Ou bien le nom d'une ville. Je suis à Londres et je crois que c'est Berlin. Puis un jour, un homme arrive avec une blouse blanche. Il a l'air grave. Et il me dit, Madame, vous êtes malade. Vous perdez la mémoire. Elle ne reviendra jamais. Des moments de bonheur. Vous savez, c'est le cœur que ça concerne, pas le cerveau. Les films que j'ai tournés, les hommes que j'ai aimés, c'est la belle histoire de ma vie. Sauf que maintenant, vous la connaissez mieux que moi. Mes enfants, mes amis, je vous aime. Et je vous aime. Et je vous quitte. Et s'il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est la chaleur de votre amour.
Voilà, ça c'était le témoignage d'Annie Girardot. Et Patrick Lemoine, depuis très très longtemps, vous travaillez sur les altérations de la mémoire. dans différents domaines, que ça soit dans Alzheimer, que ça soit aussi dans les conséquences des médicaments que nous ingérons pour soi-disant mieux dormir, etc. Est-ce que c'est pas le grand problème de société d'aujourd'hui, du 21e siècle? On a l'impression que plus on vit vieux, plus on ne s'appartient plus, et plus on veut continuer à vivre entre guillemets normalement, c'est pas un psychiatre qui faut employer ce mot de normalement, et ben plus on prend des médicaments pour être aussi vivant que le voisin, mais en fait qui altère aussi notre mémoire.
C'est vrai, beaucoup. Mais ce que je voudrais souligner dans le magnifique témoignage d'Annie Girardot, c'est qu'elle a complètement raison. C'est Freud qui disait, lorsqu'on a oublié un souvenir, en fait, il en reste toujours l'affect, même si on a perdu la représentation. C'est-à-dire, je suis allé voir un film il y a 20 ans, je me rappelle plus du tout ce qu'il racontait, mais je me rappelle qu'il était bien, ou qu'il était pas bien. Et on ne perd jamais. Et quand elle dit...
Donc il y a une imprégnation de la mémoire, sensorielle, visuelle.
Exactement. Affective, sensorielle. Et ce qu'on voit chez ces personnes Alzheimer, c'est qu'elles ne perdent jamais leur tendresse, qu'elles ne perdent jamais leur cœur, qu'elles ne perdent jamais leurs affects. Et elle le dit très bien, ce qui ne se perdra jamais, sous-entendu en moi, c'est la chaleur de votre amour et de mon amour. Et là, elle a raison, Annie Girardot, parce que jamais ça n'est perdu. Et dans ce livre, sur la vie d'Alzheimer, on cite l'histoire d'une dame qui est désespérée, elle a une soixantaine d'années, elle va voir sa vieille maman Alzheimer, qui a 85 ans, et elle dit, elle ne me reconnaît plus, elle ne me parle plus, elle est incontinente, et maintenant quand j'arrive, elle me prend les bras, elle les flaire, et même elle les lèche. Et elle était désespérée. Et on lui a expliqué, mais en fait, elle vous explique qu'elle peut toujours vous sentir, qu'elle peut toujours vous goûter, qu'elle vous apprécie, et qu'elle vous montre, plus avec des mots, mais avec des gestes, qu'elle vous aime toujours autant. Et je crois que ça l'a beaucoup rassérénée, et qu'elle est partie quand même apaisée. C'est très frappant de voir, par exemple, dans certaines de nos maisons, on ouvre les locaux pour des goûters aux gamins des écoles maternelles, s'il y en a dans le coin. Et j'adore voir ces mômes qui courent dans les couloirs, et on voit ces personnes dont le regard vide.
Donc il faut complètement les mettre dans la vie, et pas du tout les enfermer.
J'avais été frappé l'autre jour, il y a un gamin qui est tombé par terre devant une dame qui était totalement perdue, le regard vide. Et on voit cette vieille dame qui s'anime, qui ramasse le gamin, qui le console, qui se prend sur ses genoux. Et pendant quelques instants, son regard s'est animé. Et c'était la pure poésie, ce moment-là.
Donc multiplions les lieux de vie pour les gens atteints de cette maladie.
Parce que ça, c'est pas une maladie démocratique, justement, contrairement aux troubles bipolaires et la schizophrénie. C'est-à-dire qu'elle concerne les gens qui, à la retraite, arrêtent de travailler, ne lisent plus, ne cherchent plus, considèrent que, bon, ils n'ont plus qu'à se laisser vivre. Au contraire, il faut... Lorsqu'on a fini de travailler, lorsque on n'a plus officiellement rien à faire, il faut continuer à travailler, à lire, à se cultiver, à jardiner, à inventer des nouveaux semis, bref, à inventer chacun dans son champ des choses. Et ça, c'est une belle protection contre l'Alzheimer, parce qu'on ne doit pas oublier que tout le monde, jusqu'à la fin de ses jours, est soumis à ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Les neurones, ça pousse. Mais ça pousse uniquement si on sait les cultiver. Il faut cultiver ces neurones, c'est essentiel. Bien sûr, si on est voué du fait de sa construction à faire une maladie d'Alzheimer, on peut la retarder considérablement si on reste tout le temps cherchant.
Merci beaucoup, Patrick Lemoine. Beaucoup de livres de Patrick Lemoine. Droit d'asile, dont nous avons parlé tout à l'heure, est publié aux éditions Odile Jacob. Beaucoup de livres aussi aux éditions Armand Collin. Les derniers sont publiés chez Robert Laffont. Le dernier s'intitule « Soigner sa tête sans médicaments ». Tout un programme. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à Stéphane Desmonts, Corinne Amard, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde, vous écoutez France Culture.
Thank you.